Bonjour, les chroniques rebelles aujourd'hui avec du cinéma, All We Imagine as Light, un film de Payal Kapadia. C'est un entretien avec la réalisatrice. Les belles créatures, un film de Gudmundur Arnar Gudmundsson. Drone, un film de Simon Buisson. Maya, donne-moi un titre, un film de Papa Michel Gondry. Ensuite, dans la deuxième partie des chroniques, Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal de Joël Charby, Shaïn Morris et Gwenola Ricordo. C'est paru aux éditions Luxe. C'est un extrait de l'entretien avec Shaïn Morris. Et tout à l'heure, à partir de 16h30, Joël Charby, co-auteur de Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal, sera en direct à la librairie Publico pour nous présenter cet essai et répondre à vos questions. Nous vous attendons à partir de 16h30 à la librairie Publico, 145 rue Amelot. Mais tout d'abord, quatre films, dont une merveille réalisée par Payal Kapadia, Rencontre. All We Imagine as Light, un film de Payal Kapadia. Nous sommes à Mumbai, Bombay, la capitale du cinéma Bollywood et du cinéma publicitaire. Après un long panneau sur le marché en gros de la ville, un monde en perpétuel mouvement où des personnes travaillent, s'affairent, cherchent de la nourriture, un asile. La caméra elle-même est en mouvement, filmant à partir d'un véhicule. Et sur ces images qui défilent, des voix off témoignent des raisons de leur venue dans la ville, avec toujours en arrière-plan de grands immeubles modernes. Ce quartier était celui de l'industrie textile et aujourd'hui, il est en pleine mutation. Ce qui frappe dans cette ville, c'est le mouvement incessant de la cité, comme si elle ne se reposait jamais. All we imagine as light, que l'on pourrait traduire par tout ce que l'on imagine comme lumière, révèle l'ambiance spéciale de la cité. Dans cette ville en continuelle effervescence, trois femmes, trois personnages se démènent, chacune avec ses problèmes, ses envies, ses rêves. Prabha est infirmière dans un hôpital. Sans nouvelles de son mari depuis plus d'un an, elle se conduit en épouse classique, refusant toute opportunité d'attache sentimentale, restant dans l'attente d'un mari, imposé par sa famille, et parti travailler en Allemagne. Elle n'a pas eu réellement l'occasion de le connaître. Sa jeune collègue et colocataire, Anu, est bien différente. Spontanée dans ses désirs, elle brave même les interdits en étant amoureuse de Shiaz, un jeune homme musulman. Enfin Parvati. Parvati est cuisinière dans l'hôpital et est en instance d'être expulsée de son logement. Elle est veuve et n'a pas de bail. Ce quartier de Mumbai, en pleine gentrification, accélère la récupération des immeubles construits au XXe siècle pour la classe ouvrière, employés dans les immenses usines de filature. L'espace se vend très cher et les promoteurs sont prêts à tout pour expulser les locataires qui y demeurent encore. Le plan est de détruire ces immeubles et les remplacer par des gratte-ciel pour la classe privilégiée qui n'a de cesse d'effacer toute trace de la classe ouvrière ayant vécu dans le quartier qui, à ses yeux, fait tache dans le décor. L'ouverture du film transcrit à merveille la vie de cette classe laborieuse qui évidemment disparaît après 7h du matin, mais qui, tant à l'image qu'au son, envahit d'abord l'écran. Des voix qui témoignent de leur vécu, des conditions de vie avec une grande lucidité. Ça fait 23 ans que je vis ici, sur les docks de Mumbai, mais je ne me sens pas chez moi. Je suis veuve et je sais qu'à Mumbai, il y a du boulot et de l'argent. J'avais le cœur brisé, alors je suis venue ici pour travailler. Et ce constat, le temps est aspiré par la ville. Si la ville de Mumbai permet une certaine autonomie aux femmes par rapport au monde rural, les règles familiales, sociales, n'en sont pas moins pesantes et contraignantes, tant pour les femmes que pour les hommes. Du site du marché, on se retrouve à l'intérieur du métro, avec Prabha, en gros plan, sur le chemin de l'hôpital. Elle regarde les images filées. Responsable d'un service d'infirmière à l'hôpital, elle tente de raisonner une patiente âgée qui refuse de prendre ses médicaments sous prétexte qu'ils lui provoquent des cauchemars. À l'accueil, Anou s'ennuie et envoie des messages à son amoureux. Une jeune femme la questionne. « Que donne le gouvernement pour une vasectomie ? J'ai 24 ans et déjà 3 enfants. » Anou répond « Un seau en plastique et 1000 roupies. » Le soir, en rejoignant Prabha dans l'appartement qu'elle partage, Anou l'a pris de payer sa part de loyer pour le mois courant, son budget serré. Lorsqu'elle dit avoir demandé à l'un des internes de faire une échographie de leur chatte qui attend des petits, Prabha, désarmé par le naturel de la jeune femme, lui fait la morale et l'avertit. « On m'a rapporté que tu fréquentais un garçon. Fais attention. » Payal Kapadia réalise un film à la fois sur les femmes et sur la ville de Bombay, Mumbai à présent, qu'elle connaît bien, et sur son évolution constante. On assiste à l'heure actuelle à un vrai boom immobilier. Certains quartiers se métamorphosent à vive allure. Les promoteurs font sans arrêt main basse sur ce qu'ils considèrent comme des bidonvilles. Sur des immeubles où on peut vivre des années sans avoir aucun papier qui prouve qu'on y a droit. C'est ce qui se passe pour le personnage de Parvati. Et ceux qui n'ont pas d'argent sont expulsés. On assiste donc à une sorte de gentrification. C'est très étrange à observer quand on a grandi là-bas. Je voulais montrer ça, la vitesse à laquelle la ville se modifie. Trois comédiennes remarquables incarnent avec un naturel sans pareil trois femmes se trouvant confrontées à des choix de vie. Prabha, face à un mari fantôme pour lequel elle n'a guère d'attache, Anou et son amour pour Shiaz, qui pensait être libre dans la grande ville, mais la famille est encore présente, la seule qui finalement se libère, se désengage de la ville et prend sa nouvelle vie en main, c'est Parvati qui ne veut plus vivre la pression et l'intimidation des promoteurs et préfère revenir vivre dans son village où elle possède une maison et peut trouver du travail. Donc après une première partie de récit assez sombre, voilà que Parvati entraîne ses deux amis pour quelques jours dans son village côtier. Le décor devient alors chaleureux et chatoyant. Pour les deux femmes, c'est un court séjour pour accompagner Parvati dans son déménagement. Mais il semble soudain que l'emprise de la ville sur le temps, leur vie, s'arrête. Prabha, Anou et Parvati partagent des moments joyeux. Parvati trouve un travail et s'occupe de ses amis. Anou est plus que jamais amoureuse et se demande si elle doit vivre pour sa famille ou d'abord pour elle-même. Comme le fait ressortir Payal Kapadia dans son film, l'amour en Inde, c'est une affaire extrêmement politique. Savoir qui on peut épouser est une chose très complexe en Inde. La caste et la religion, entre autres choses, ont une influence profonde sur le choix de la personne avec qui vous allez passer votre vie, ainsi que sur les conséquences de ce choix. L'amour impossible, qui compte parmi les thèmes principaux de All We Imagine as Light, est une question très politique. Et soudain, les désirs sont désaliénés. Une liberté nouvelle, avec de la douceur, des rires et de la magie. sur l'ouverture du film, la première impression est que l'on ne sait pas si l'on est dans un documentaire ou un film de fiction. C'est un style sans frontières. L'idée de cette ouverture existait-elle dès l'écriture du film?
I also like films which have fiction and non-fiction together. I think it creates something more. But I always knew I wanted to do something, but I wasn't sure what it would be. So the script didn't have the non-fiction in it, but when I was working with my cinematographer, who's also the cinematographer for my previous film, and we live in Mumbai, so we were shooting a lot the city over 2-3 years. And when we were doing that, we felt that there was some kind of a homage we want, which were not to do with the main characters, but more about the feeling of the city itself. So while we were shooting, we gathered a lot of material, and then in the editing, we came up with the two sequences.
J'aime beaucoup ce mélange de fiction et de non-fiction, parce que cela apporte quelque chose en plus. J'ai toujours voulu le faire, mais je n'étais pas certaine du résultat. Le script n'avait rien de documentaire, mais en travaillant avec mon directeur de la photographie, qui a également fait l'image de mon précédent film, Toute une nuit sans savoir, nous avons pensé que tous ces plans que nous avions filmés de Mumbai, pendant 2 ou 3 ans, représentaient une somme de matériel cinématographique, une sorte d'hommage, non pas au personnage, mais à l'ambiance de la ville. Donc, nous avons conservé énormément de rush et au montage, nous en avons tiré les séquences d'ouverture du film.
Toujours par rapport à l'ouverture, il est difficile de séparer les images de la bande-son, de déterminer leur importance respective. De plus, les témoignages en voix off sont très politiques. Était-ce écrit dans le projet initial?
Yes, of course. I didn't want, like, the previous movie was very political on the nose. This one, I was trying to be more political, but kind of in a more lyrical way.
Bien sûr, mon film précédent était ouvertement politique. Celui-ci l'est également, mais de manière non frontale.
But it was definitely a choice. I mean, you can't make a film about a city and women and not be political.
C'est un choix. Comme d'ailleurs, faire un film sur la ville sans qu'il soit politique.
Dans la séquence d'ouverture, les voix off sont pour beaucoup celles de femmes témoignant des raisons pour lesquelles elles sont venues travailler à Mumbai. Pour un public occidental, c'est découvrir que ces femmes sont parfois venues seules travailler en ville et qu'elles s'en expliquent.
In Mumbai is a city where you have to work. It's very difficult otherwise because it's a very expensive city. So there are a lot of women in the workforce in Mumbai and a lot of women who come to work with from other regions to Mumbai because you get a better pay and, you know, it's a little bit better. You have better education for your children sometimes. So in that sense, Mumbai is a place where you see a lot of women working. And it's a little bit, I think, safe for women to work as well because even the film industry is there. So oftentimes you can go home at 4 in the morning and it's still a bit safe. So, but it's also a really difficult city and the everyday life is not easy. And it's super expensive to own to rent an apartment, to travel every day. So it's both things. And this was an aspect of Mumbai that I wanted to talk about. I have a love-hate relationship with it.
À Mumbai, il faut travailler. Autrement, c'est difficile de vivre dans cette ville qui est très chère. La main-d'œuvre féminine est considérable et provient de plusieurs régions. D'une part, parce que les salaires sont plus élevés qu'ailleurs et d'autre part, l'éducation des enfants y est souvent meilleure. Cela explique la part importante des femmes au sein de la main-d'œuvre dans la ville. Elles sont aussi plus en sécurité la nuit. Il ne faut pas oublier que c'est la ville de l'industrie du cinéma. Ce qui n'empêche pas que la vie au quotidien n'est pas facile. C'est hyper cher de louer un appartement, de se déplacer chaque jour, etc. Ces aspects de la ville, je les connais bien et je voulais qu'ils soient visibles dans le film.
Dans ton film, Mumbai m'a laissé la même impression que New York. La ville ne dort jamais.
Yeah, absolutely. It's very... Because the first shot of the film, which is traveling, that's a market that starts at 4 a.m. and goes on till 7 a.m. It is a wholesale fruit and vegetable and flower market. So that whole area becomes a market between 4 a.m. and 7 a.m. At 7 a.m., everybody packs up and goes away. And that same area becomes like an office street of multinational companies.
Absolument. L'ouverture du film en long panneau, c'est le marché en gros des fruits, des légumes et des fleurs qui se tient tous les matins de 4h à 7h. Ensuite, tout le monde remballe la marchandise et laisse la place à celles et ceux qui travaillent dans les bureaux et les entreprises.
This aspect of Mumbai that I wanted to document. And for me, this area is particularly interesting because it's getting very gentrified now. It used to be the old cotton mills that the British had made. Like, after they left, those was given to rich Indians. And they had horrible labor laws, so there was a huge strike that took place in the 80s. And as a consequence, instead of actually addressing the workers' issues, they shut down the mills and everybody lost their jobs. So that whole area now, which used to have these giant mills, those mills have been sold to shopping malls. So they become luxury shopping malls for like Rolex and things like this. So it's really for me to see this change that has happened and how people have just been shoved aside from this area was something I wanted to address through the geography of the film.
Documenter ce quartier était fondamental parce qu'il est en pleine gentrification. L'industrie du textile et ses grandes usines y étaient installées depuis la colonisation. Au départ des Britanniques, de riches Indiens ont récupéré les bâtiments et dans les années 80, il y eut de grands mouvements sociaux et de longues grèves. Au lieu de répondre aux revendications ouvrières, les usines ont finalement été fermées. Tout le monde a perdu son travail et les bâtiments furent vendus à des centres commerciaux qui en ont fait de grands magasins pour les produits de luxe comme Rolex et d'autres. Le changement de cet espace et comment la population initiale en a été chassée, je voulais en faire mention dans la géographie du film.
Le film présente cette classe sociale modeste, celle qui travaille à Mumbai, ainsi que des vestiges du quartier ouvrier, avec en fond de décor les gratte-ciel.
That is Bombay. I mean, that shot where Parvati is standing in on top. So that area is, for me, really epitomized by that shot because she's at her balcony of her house that you can see is clearly different from the buildings at the back. So that particular kind of housing is a very particular architecture of Bombay in the 20th century, which was made for the workers who work in the mills. It's called a chawl, which is a community living place where you have your own apartment, but the bathrooms are outside. It's very particular to Bombay. So now all those are being destroyed and these huge sky rises are coming up. In them, like, they have separate entrances for the people who work there and the people who live there because it's like a fully classist system and you need a special code to go inside and nobody's allowed and it's like really, oh, we don't engage with the city, we have to be so clean and this sort of thing. I was upset by this.
C'est Bombay ou Mumbai. Ce qui se passe dans cet espace est typique de la mutation de la ville. L'appartement de Prabha se situe dans les immeubles construits au XXe siècle, pour ceux et celles qui travaillaient dans les usines. Le quartier s'appelait le Chali. Les appartements furent attribués aux familles ouvrières, les salles de bain se trouvant à l'extérieur. C'est une particularité de la ville. À présent, ces immeubles sont détruits les uns après les autres, remplacés par des gratte-ciel, qui ont des entrées séparées pour les gens qui les habitent et ceux qui y travaillent. C'est un système de classe et il faut posséder un code spécial pour entrer dans certaines parties des nouveaux immeubles. Les riches ne veulent pas se mélanger avec le reste de la population, se considérant comme l'élite. Cette attitude m'agace énormément.
Le tournage s'est-il fait avec des autorisations de tournage ou clandestinement ?
Bombay is a city, it's a very shooting city because all the whole film, Bollywood industry is there and the advertisement industry is there. So it's very expensive to get one location. Sometimes my French producers would be like, this is more expensive than Paris. So it's very expensive. So when we could, we did. But in some places, it would have costed us too much money. So, and also you can't recreate a street of 4,000 or 5,000 people. So we decided that we would just go with the actors and shoot like guerrilla style in a very, like a DSLR camera. But my cameraman had done a lot of tests to how to make that image look like the rest of the film. And we worked with a very good color grader in France, Lionel Kopp, who also worked on our previous film. So he's like an artist. You give him any footage, he makes it, it could be anything.
Bombay, Mumbai, c'est la ville du cinéma. L'industrie de Bollywood est omniprésente, de même que le cinéma publicitaire. Alors les autorisations de tournage coûtent cher. Mon producteur français m'a dit que c'était parfois plus cher qu'à Paris. Nous avons tourné avec des autorisations quand cela était possible, mais lorsque certains endroits s'avéraient impossibles à recréer, comme une rue avec la foule, nous avons tourné avec une petite caméra en extérieur, avec les comédiens et les comédiennes. Ranabir Da, le chef-op, a fait des tests caméra pour que la qualité de l'image soit identique à celle des autres rushs. Mais il faut dire que nous avons travaillé avec un virtuose de l'étalonnage en France, un véritable artiste.
On ne voit pas la différence entre les éléments du tournage.
It's because he's a genius.
C'est un génie.
Pourquoi ce titre, All We Imagine as Light?
I like very much the two words imagine and light because it was to do more with kind of when you're stuck in a situation, it's hard to kind of see a possibility. And that's what the title is alluding to.
J'aime beaucoup les deux mots, imaginer et lumière. Cela évoque aussi une situation où on se sent coincé.
Ton choix, explique-t-il, la première partie qui est sombre, beaucoup de plans sont tournés de nuit ou par temps pluvieux, alors que dans la seconde partie, le voyage vers la côte, tout s'éclaire et devient très coloré. Le plan aérien à l'arrivée du bus ressemble à un tableau.
I wanted to have like two different feelings of light. First is the monsoon, which is a bit like today, this weather. Because in Bombay, we don't have seasons. We only have like monsoon for 4 months. And the western coast, it's very tropical. So we just have one time of rain and the rest is hot. And the monsoon can be kind of a weird time because the light is this weird blue light. It can be a bit as if everything is stuck in a place. So I felt like the mise-en-scene went well with the script at this point. And in the second half, I wanted it to be like bright light and sometimes even like so bright that it becomes like you lose all the details in the image. Like it's too bright perhaps. So I wanted this contrast in the two parts.
Je voulais effectivement deux ambiances de lumière dans le film. D'abord la mousson avec la pluie et une lumière sombre comme aujourd'hui. À Mumbai, il n'y a pas de saison. Nous avons 4 mois de mousson et le reste de l'année, il fait chaud. C'est un climat tropical. La lumière est étrange pendant la période de mousson, un peu bleutée, comme bloquée. Alors j'ai voulu que la mise en scène, dans la première partie, reflète cette ambiance. Dans la seconde moitié du film, j'ai voulu une lumière brillante, parfois si brillante que l'on perd les détails de l'image. Trop peut-être, mais je voulais ce contraste entre les deux parties.
L'histoire met en scène trois femmes, trois personnages, Prabha, Anu et Parvati. Elles sont différentes. Prabha obéit à la tradition, l'accepte, Anu la transgresse complètement et Parvati semble complètement ailleurs.
Oui, elle est ailleurs.
Sont-elles originaires de la même région?
They are all different. These two are from Kerala, south of India, and Parvati is from Maharashtra, from Ratnagiri. So I like to have them because both Anu, what I wanted in the film was that Prabha is in a relationship which the world considers legitimate, even though she doesn't love the guy, but it's considered to be like legitimate, while Anu is in love with the guy, but her relationship is illegitimate. So I like this two ways of being. And Parvati is more like, she's kind of like the woman of Mumbai because there's no time to feel pity for yourself and like be, oh, I don't have this. She just gets on with it, you know. She doesn't have time for anything which is too much thinking or things like this. She lives her life. So she's like this.
Prabha et Anu viennent du Kerala, dans le sud de l'Inde. Parvati vient de Ratnagiri. Prabha vit une situation considérée par la société comme légitime. Elle est mariée, même si elle n'aime pas ce mari absent. Anu aime Shyaz, mais leur relation est jugée illégitime. Ces deux manières d'être me plaisent. Quant à Parvati, elle ressemble plus à une femme de Mumbai, qui ne prend pas le temps de s'apitoyer sur elle-même. Elle se contente de ce qu'elle a et ne réfléchit pas trop à la situation. Elle vit sa vie.
Les problèmes de Prabha et d'Anu sont liés à leur condition de femme. Pour Parvati, c'est différent. Elle est expulsée de chez elle, non parce qu'elle est une femme, mais en raison de la gentrification. Sont-elles issues de la même classe sociale?
No, they're not. In fact, a friendship of Prabha and Parvati wouldn't be normal because Prabha is like a nurse and Parvati is more like the cook. And they also don't speak the same language. So normally in India, like people who speak the same language tend to stay with each other. But their relationship is unique because they've probably both been in the hospital the longest and grown together. So it's an unusual friendship. But for me, I like that we can propose some unusual friendships to the world.
Non, la relation amicale entre Prabha et Parvati est inhabituelle. Elles ne parlent pas la même langue, ne sont pas issues du même milieu social. Prabha est infirmière alors que Parvati est cuisinière. Leur amitié est unique, sans doute due au fait qu'elles travaillent depuis longtemps dans cet hôpital. J'aime bien l'idée d'une amitié inhabituelle.
En fait, trois langues sont parlées dans le film. L'hindi, le marathi et le Malayalam.
Yes, Parvati speaks Marathi when she's back in her village.
Oui, et Parvati parle le Marathi dans son village.
Your film is about emancipation of women.
Ton film traite en fait de l'émancipation des femmes, mais petit à petit, et c'est différent pour chacune d'elles. L'émancipation de Prabha a un côté spectaculaire avec l'épisode du noyé ramené sur la plage. La situation est-elle réelle ou est-ce le fruit de son imagination?
C'est son imagination.
Donc elle se libère elle-même des contraintes imposées en parlant à un homme fantasmé. Elle n'a pas réellement connu son mari.
He was like a stranger, as good as a stranger that she found on a beach. I like that she breathes life into him and then she can make him whoever she wants.
C'était un parfait étranger pour elle, comme le noyé sur la plage. J'aime l'idée qu'elle le ramène à la vie pour ensuite en faire ce qu'elle veut.
Elle le ranime, puis ensuite l'abandonne.
Because I feel like a lot of times women in India are, I think it's true in a lot of South Asian countries where women are pitted against each other, and all of that basically comes from how the society is designed. So I feel that she needed to, like, the real husband didn't really need to come. She needed to get rid of him.
J'ai le sentiment qu'en Inde, comme dans d'autres pays du Sud, les femmes sont souvent délaissées pour compte. Et cela vient des structures sociales en place. Dans le cas de Prabha, c'est à elle de se débarrasser de ce mari absent.
Ces trois femmes ont une certaine autonomie économique puisqu'elles travaillent, mais l'émancipation, c'est une prochaine étape. Parvati est la première à dire qu'elle en a marre de rester à Mumbai et qu'elle préfère retourner dans son village où elle pourra travailler et mieux vivre. Elle invite ses deux amies à cette occasion. Prabha imagine la conversation avec cet homme, règle ses comptes et reprend sa liberté. Elle est déterminée, mais sans violence. Enfin, dans le même temps, Anu fait l'amour avec Shiaz et tous deux sont magnifiques. Comment as-tu filmé cette scène d'amour qui est pour moi l'une des plus belles au cinéma? C'est une scène de sexe, mais tendre, et sous l'influence des statues découvertes dans la grotte de la plage.
Absolutely.
So it's magic.
C'est magique.
Thank you. That's all I thought about. So it was supposed to be a very affectionate scene, and it's a scene that I shot myself. We discussed a lot with the actors and how to do it and how to frame it, and all these things were very deeply discussed. And we also had an intimacy coordinator on set who was a great girl. So we were doing a lot of conversations, and actually, Divya and I, the actress, we discussed for many months how we should look at this moment in the life of the character. Not as a script, not as a visual thing, but what is Anu feeling? And then we decided to do it like completely, like the camera on her face the most. And this was something we came up together.
Merci. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est une scène pleine d'affection. Je l'ai filmée moi-même. Nous avons longuement discuté la manière de filmer la scène, le cadre, avec la comédienne et le comédien. Une coordinatrice de l'intimité nous assistait, et c'est une fille formidable. En amont du tournage, nous avons longtemps parlé de cette scène avec Divya, qui incarne Anu. C'est une scène cruciale pour son personnage, pas seulement d'un point de vue visuel, mais avant tout du point de vue de ce qu'elle ressent. Nous avons alors décidé ensemble de placer la caméra essentiellement sur son visage.
When you shoot her from the front head,
yeah,
and just the eyes.
Oh, yeah.
And you see Jessie,
le plan qui va de son front à ses yeux, yeah, et découvre ensuite very, very les nice deux corps est très beau. La manière dont les scènes d'amour sont généralement filmées par des cinéastes, femmes ou hommes, sont très différentes par le choix du cadre, du placement de la caméra, et il y a bien sûr le montage ensuite. Mais le résultat est souvent tout à fait différent. Il m'arrive parfois de deviner, si j'ignore qui filme, si c'est une femme ou un homme qui shoot une scène de sexe.
That's nice. And I also had a very good editor. Really understood the scene well, and we only used a few shots, but still the rhythm is super nice, I feel.
J'ai également eu la chance de travailler le montage avec quelqu'un de très fort, qui a parfaitement compris la scène. Nous avons finalement choisi peu de prises.
And that cave exists?
Cette grotte près de la mer existe ou elle a été créée?
That kind of cave often exists in Maharashtra. It's a very common part of the landscape because that region has a history of Buddhism. So it's a Buddhist cave, and like there used to be Buddhist monasteries, and the monks would make the Jataka tales and the tales of the Buddha on carvings in the walls. And that region is known for that. But we couldn't get permission to shoot in a real cave because it's an archaeological site. It's become very clean, like, obviously. So I didn't want it like that. So we took photos of those caves and we found an abandoned cave. And then the art department recreated some of the sculptures.
Ces grottes sont assez nombreuses dans la région, qui a été historiquement sous l'influence bouddhiste. Les moines ont sculpté ces statues et gravé l'histoire du Bouddha dans la roche de la région. Il n'a pas été possible d'obtenir des autorisations pour tourner dans ces endroits, en raison de la sauvegarde archéologique. Et puis, c'était beaucoup trop entretenu pour l'idée de découverte dans le récit. Nous avons donc pris des photos des sculptures, trouvé une grotte abandonnée, et le département d'art les a recréées.
L'impression est super. Les sculptures semblent exister là depuis peut-être 2000 ans. Elles paraissent attaquées et rongées par l'eau de la mer.
It's a kind of particular rock in that region called laterite, which is a red color rock, and it's very porous, the rock. So even if there is a sculpture, it would have become very erased over time. So we wanted to have this feeling, and it's this wonderful red color, which is also Parvati's house is that color, because everything in that region is built with that rock. So it's a very particularity of the place.
C'est vrai. La roche rouge de cette région, la latérite, est particulièrement poreuse. La maison de Parvati, de la même couleur, est construite avec cette roche.
La lumière qui éclaire la grotte, les sculptures, sont une sorte de prélude à la scène d'amour, avec un côté Alice au pays des merveilles.
Yes, absolutely. Yeah, I wanted a feeling of like suspended time in some senses, and the cave can give you that feeling because it doesn't feel realistic inside. It becomes almost like a mythical space. And I feel sometimes when you go to some places like caves and things, the feeling of being there makes you feel different, like the cold air, the lack of light, the strange smells, the feeling that, you know, light has not been here for so long. And I felt that this conversation could be had in a space like this where they kind of confront their future and what they're going to do.
J'ai voulu donner ce sentiment de temps suspendu et la grotte crée cette impression. Rien ne semble réel à l'intérieur. C'est un espace mythique. D'ailleurs, lorsqu'on se trouve dans ce type d'endroit, on se sent dans un autre monde. L'air froid, le manque de lumière, les odeurs étranges, le sentiment que la lumière n'y a pas pénétré depuis fort longtemps. Alors j'ai pensé que leur conversation sur le futur devait avoir lieu dans cet endroit.
La scène d'amour et la conversation de Prabha avec cet homme imaginaire sont en fait le déclic pour leur prise de conscience à toutes les deux.
Absolutely. For Prabha, like, that's what I wanted, the two shots, like, to have the same action. Because when Anu goes down to kiss Shiaz in the first shot, it's like this, and you first see her head, and then she comes down and we see him. And the same shot I have with Prabha resurrecting the drowned man, it's like this, and then we come down and she breathes into him. So they are similar shots, it's a similar action, but very different what they're doing. So, I don't know, I think they were a reflection of what is freedom for both of them.
Les scènes avec Prabha et Anu se répondent en quelque sorte, dans les mouvements de caméra, s'agissant de la scène d'amour ou dans le sauvetage du noyé. Ce sont des plans et des actions similaires, bien qu'elles soient différentes. C'est aussi une réflexion sur la liberté, pour toutes les deux.
Lorsque Parvati rejoint Prabha et Anu sur la terrasse du café de la plage, il y a ce jeune garçon qui tient le bar.
It's a young girl.
C'est une fille, ce n'est pas un garçon.
I wanted to keep it like this. That was something I was really keen, that you don't know what is the gender, but it's a girl. I'm so happy you noticed, because I love this character so much. She's there very short time, but like, she's like really young. Yeah. And she wants to be like this, so.
J'ai voulu garder ce doute sur le genre, mais c'est une fille. Je suis contente que tu aies remarqué ce personnage, parce que je l'aime beaucoup, même si elle apparaît peu de temps. Elle est très jeune et désire créer ce doute sur le genre.
Elle a des manières très libres. Elle représente pour toi la nouvelle génération.
Yes.
Il y a beaucoup de choses à voir dans ton film.
Lot of little things. And she's listening to a rap song, which is really nice lyrics. So if you speak Marathi, you get it. The lyrics are like, you can do what you want with your life, just do it.
Un grand nombre de petites choses, des détails. Par exemple, la jeune fille du bar écoute une musique de rap dont les paroles sont très intéressantes. Tu peux faire ce que tu veux avec ta vie, Alors fais-le.
Ces deux films, Toute une nuit sans savoir sur les grèves étudiantes et All We Imagine as Light, sont certes différents, toutefois un des liens entre les deux, ce sont des films indépendants. Est-ce difficile de réaliser ce type de film en Inde, et d'autant plus quand on est une femme?
I think independent filmmakers are really struggling in India because there's no money. So even the male independent filmmakers are struggling because there's no government funding. It's mostly a studio system, so you don't get much money to do things, and then you have to look at private funding. Politics can get a bit curbed when you need to find private sources, so it's really hard for people. But the co-production is also tricky because, like, I speak English well, a lot of people will not speak, then how will they write applications? So I don't think it's a gendered thing, it's more to do with the choice you make as a filmmaker in India to make films like this. It's really hard. But more and more people are doing it because of this co-production system. People find little funds from everywhere to make films. In the state of Kerala, where they are from, the government has set up two different funds, one only for women filmmakers and one only for filmmakers of marginalized castes. There's some more representation for subjects and things like this. So that is good, but it's very little. So I think it's just hard when you're not part of the studio system in India.
Les cinéastes des films indépendants doivent lutter pour leur projet, simplement parce qu'il n'y a pas d'argent, pas de fonds pour une aide au cinéma. Avec le système des studios, on n'obtient pas de budget pour les films indépendants. Il faut donc chercher des financements ailleurs, du côté des fondations privées, mais c'est vraiment dur. La coproduction peut s'avérer aussi compliquée. Je parle anglais, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense que les difficultés viennent plus du côté du manque de financement que des questions de genre pour réaliser des films indépendants. Pourtant, de plus en plus d'auteurs y ont recours pour trouver des fonds, d'un peu partout. Dans l'état du Kerala, le gouvernement a mis en place deux fonds, l'un destiné aux réalisatrices et le second afin d'aider la représentation d'un cinéma local, plus ou moins marginalisé. Donc faire des films en dehors du système des studios, c'est indéniablement difficile en Inde.
Le fait que All You Imagine as Light ait remporté le Grand Prix au Festival de Cannes donnera-t-il un coup de pouce à ce type de cinéma?
I hope so, I don't know.
Je l'espère.
I feel like, of course, I think that it definitely gives people the knowledge of possibility that you can make a film with this kind of funding system, because I feel a lot of times young people, like, they give up too easily saying, oh, I didn't get this fund. But you can't. I mean, for every fund you get, you will be rejected 5 times. So the kind of, like, we did it for 5 years. But it's also difficult, like, how do you sustain your life? So you have to take up, like, odd jobs, and I don't know, I just think it's really hard, but I think this kind of is good that it's not just my film, but this year we've had 6 films in Cannes from India in different sections. So there's definitely more people making films and more films that are traveling the world. So I think it's good.
Bien sûr que cela donne l'idée qu'il est possible de faire des films indépendants. Jusque-là, j'ai eu l'impression que les jeunes abandonnent leurs projets au premier refus. Ils se découragent trop vite. Nous le savons d'expérience. Il est possible qu'il y ait plusieurs rejets, 5 ou 6 parfois. Bien sûr, il faut vivre pendant ce temps, accepter des boulots. Mais ce que je vois, c'est que cette année, 6 films indiens ont été sélectionnés à Cannes, dans différentes sections. Ce qui signifie que plus de films indiens sont réalisés et voyagent dans le monde.
Il y a une nouvelle génération de cinéastes en Inde. J'ai cette impression. Mais qu'en penses-tu?
Yeah. There are. I think there are a lot of filmmakers now who are able to make films. Also, because I think there are more ways to make films have opened up. Like how we shoot, how we edit. Things have become more accessible. So you can make a movie sometimes in lesser money, and it can be really good quality. Because you didn't have the best camera, it doesn't matter. I can go with this Zoom recorder, and I can do many things. So I love. This. So I have a Roland one and it's exactly like this. I depended on it for everything. So if you invest in a few things, then like you can do now more with less. So I think that's why people are making smaller budget films. Like there is people from very small states in India also who are making films in their regional language, which is like recently there's a film of a Meghalaya director that premiered in, that got a release in France. It's a region that is really underrepresented. And it's so cool that he made a film with his whole village, sometimes casting his father in the movie and things like this. And it was called Raptures. I think it released in April in France. That's cool. I think a lot more films are going to come out of India. It's okay. We are at a great place. I think I know already so many films are being shot now. It's already like I'm looking forward to next year and what films will be where. And
il y a aussi plus de facilité techniquement parlant. Tourner, monter, c'est à présent plus abordable. Avec un petit investissement, on peut faire des films de qualité. Avec un zoom, par exemple, pour le son, on peut faire beaucoup de choses. On peut à présent faire plus avec moins, ce qui donne des opportunités. Par exemple, le film Rapture, sorti en France au printemps dernier, a été réalisé dans un village avec la participation de la population. Je crois que beaucoup de films se tournent actuellement en Inde. C'est un pays à filmer, alors j'attends l'année prochaine pour les voir.
Tu peux nous dire un mot sur tes projets ?
The next project is, it's also a film about Bombay. I want to make 2 more films about the city because when I was making this film, I stumbled upon a lot of research and it's given me like a whole other idea for a film. So I'm interested in that. It has more to do with the history of the city because right now, as we speak, they are doing a land reclamation of the city. So the shape of the map of Bombay is going to change because they've taken 500 meters into the sea across the city. Because we are an island city, so there's not enough land. So I'm interested very much in how the city came to be, and the film will have some aspects of that. We'll have a sense of this ever-changing physical city.
Mon prochain film sera également sur Bombay. Je veux réaliser encore 2 films sur la ville. Lors du tournage de All You Imagine Is Light, j'ai commencé une recherche et cela m'a donné des idées. Le prochain film sera sur l'histoire de la ville parce qu'aujourd'hui, alors que nous parlons, une revendication de territoire est faite par la ville. Donc la carte de la cité va se transformer. Le projet est d'avancer de 500 mètres sur la mer. Bombay, Mumbai, est une cité-île, donc plus d'espace est nécessaire pour son extension. Le film évoquera certains des aspects de cette mutation.
Tu travailles avec ton compagnon?
Yes. Yeah, he's my DOP. But we also work very closely, like while writing. We do a lot of tests, almost like a documentary, even when we're doing fiction. 2 years ago, we were shooting scenes of this movie in the train, in this place. So I like working like this, like a workshop, atelier kind of.
Oui, nous travaillons en duo. Nous écrivons ensemble. Il filme, fait des tests, des repérages. Par exemple, l'ouverture de All You Imagine As Light est extraite de tournage qu'il a réalisé il y a 2 ans. J'aime travailler ainsi, comme dans un atelier.
Alors tu travailles tout le temps.
Yeah. But I mean, we are so privileged to make films. I can't complain. It's the happiest it makes me.
Oui, j'estime que nous sommes si privilégiés de faire des films et je ne vais pas me plaindre. C'est ce que j'aime le plus.
all you imagine as light is almost perfect.
Thank you.
Thank you very much. Alors sur cette musique, en fait, je n'ai pas la musique de la bande originale du film de All You We Imagine As Light de Payal Kapadia, donc j'ai pris de la musique ailleurs, notamment les illustrations musicales que vous avez pu entendre. Il y avait Sakamoto, il y avait Amin Bouafa et des extraits de la bande originale d'un autre film indien, Girls Will Be Girls de Sushi Talati. Alors cet entretien avec Payal Kapadia s'est déroulé le 24 septembre dernier, non sans quelques rires et un très grand plaisir de partage, je dois dire. All We Imagine As Light de Payal Kapadia sort au cinéma le 2 octobre. Je n'ai pas besoin de dire que j'ai adoré le film et que je le recommande très chaleureusement. Il a reçu le Grand Prix au Festival de Cannes, c'est son second long métrage, après un formidable long métrage documentaire cette fois, qui avait pour titre « Toute une nuit sans savoir » et qui était sur des grèves qui se sont passées donc en Inde, des grèves d'étudiants et d'étudiantes, dont évidemment, moi personnellement, j'ai complètement découvert, j'ignorais complètement. Radio Libertaire, les Chroniques Rebelles, et bien après donc ce film qui se passe, donc je le rappelle, à Bombay, Mumbai, puisque Bombay en fait c'était le nom de la colonisation britannique, Mumbai maintenant c'est son nom, mais effectivement comme ça a beaucoup marqué Bombay, souvent les deux sont utilisés comme vous avez pu l'entendre dans l'entretien. Donc vous êtes toujours sur Radio Libertaire, là on va voyager ailleurs, cette fois-ci ce sera un voyage en Islande, donc on change complètement, on va dans les pays du Nord. Et le film dont je vais vous parler, ça a pour titre « Les belles créatures ». Voilà.
Les belles créatures, un film de Gudmundur
Arnar Gudmundsson. Le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie, de ses amis d'enfance, pour écrire un récit sur l'adolescence, imprégné d'une brutalité ordinaire, comme seul moyen d'expression. Notre monde était particulier, dit-il. Les comportements violents faisaient partie de notre quotidien. De plus, dans ma famille, il y avait une forte croyance envers les phénomènes surnaturels et l'interprétation des rêves. C'est donc ce mélange étonnant de rapports violents et de croyances magiques qui tisse le fond du récit, situé dans un milieu modeste islandais. Adi a 14 ans et est élevée par sa mère, elle-même très impliquée dans la clairvoyance et la signification des rêves. Elle perçoit l'avenir dans les rêves. Adi refuse de croire à tout ce qui est surnaturel. Il a pourtant des visions lui-même, mais préfère traîner avec sa bande. Témoin de la maltraitance de Bali, un garçon introverti, Adi l'intègre à sa bande. Ils sont donc quatre ados, désœuvrés, plus ou moins livrés à eux-mêmes, confrontés au monde des adultes, qui ne comprend rien à ces gosses paumés et en mal de modèle. Lorsque le beau-père de Bali sort de prison, les quatre garçons sont directement mêlés à ce que vit leur ami et sa famille. Ils décident alors d'intervenir pour intimider cet homme. Les belles créatures est une histoire d'amitié où la loi du plus fort semble la règle. Le film réussit à décrire une ambiance forte et les belles créatures est une immersion incroyable dans le monde adolescent. Le jeu des jeunes acteurs est impressionnant de naturel. Les belles créatures de Gudmundur Amar Gudmundsson est à voir depuis mercredi dernier.
À la naissance, réfète spéciale pour ça. J'ai pas de mode d'emploi, juste né là où il faut, dans l'hémisphère d'en haut, celui qui mange, celui du bas, pour en devenir toujours plus gras. Alors peut-être même que dans 30 ans, je serai riche et plus important. Je pourrais même faire les lois et être au-dessus à la fois. Être parmi les 1% et regarder tout le monde de haut. Et quand on possède autant, dépossède tous les autres. Mais partout t'as dit ce que fait la police. Quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera. Je rentre seul après minuit, pas besoin d'acheter de tampons alors que ça devrait être gratuit. Et quand je dis non, c'est d'accord, peu importe comment je m'habille. J'ai pas d'injonction au corps, ni à fonder une famille. Et j'évite tout faciès, les contrôles, les mains aux fesses. Social est la logique, on voit qu'elle est pas symétrie. Mais partout t'as dit ce que fait la police. Quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne change. Ah mais tralali, tralala, on les écoute pas. Et tralali, tralala, toi et moi là. Rien fait spécial pour ça, j'ai toujours pas de mode d'emploi. Alors à tous ces avantages, ça vous dit, on les partage. À qui a ça en commun d'être un humain?
Alors,
C'est toujours surprenant, la fin de ce disque. Donc, c'est la musique de Lehmann, c'est-à-dire c'est une chanson de Lehmann, ça s'appelle Petit Garçon. Vous êtes sur Radio Libertaire, les Chroniques Rebelles. Évidemment, on continue puisqu'on va parler maintenant d'un autre film, encore complètement différent, puisqu'il s'agit de Drone de Simon Buisson. Drone, un film de Simon Buisson. Un agresseur, dissimulé sous la forme d'un drone, sans que l'on puisse deviner son auteur et dont la présence est constante, c'est ce que vit Émilie, une étudiante en architecture qui d'abord est intriguée par ce drone, s'en sert ensuite et finalement, l'objet devient si intrusif dans sa vie que c'est totalement angoissant. L'idée est intéressante et troublante dans le contexte de l'actualité. Comment des objets et la technologie peuvent devenir des outils de harcèlement et même des machines de mort. Faire un film sur une histoire d'amour contemporaine, ça passerait forcément par montrer l'usage des téléphones portables. Ça serait anachronique, peut-être intéressant, mais anachronique, de ne pas leur faire jouer un rôle crucial. Pour ce film, confie Simon Buisson, l'objet drone s'est imposé à moi comme une évidence. Il incarne quelque chose qui me semble traverser beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. Nous sommes, individuellement et collectivement, dans l'addiction aux technologies. On a parfois l'impression de pouvoir contrôler cette dépendance. Mais au moment où on essaie de s'en défaire, on se rend compte que c'est trop tard. C'est elle qui nous possède. Au début, la technologie vient nous aider, nous protéger, faciliter nos vies. Et on doit bien se rendre compte que d'une certaine façon, elle nous désincarne, elle nous oppresse et elle tue toute forme d'intimité et de bulle intime. Or, la vie intime d'Émilie est en effet violée par la surveillance persistante de la machine sans qu'elle sache qui la manipule. Ce premier film de Simon Buisson est intéressant par la thématique, liant la technologie à ce qu'elle induit directement et par ramification. D'une part, l'addiction de la personne qui l'utilise et d'autre part, comme on le voit dans le film, la violence développée à l'encontre de l'entourage sans que la personne elle-même soit directement visée. On a l'impression que c'est une chasse et que les menaces à l'encontre de son entourage sont destinées à l'isoler de plus en plus. Dans le film, le drone voyeur et envahisseur devient un personnage agressif, certes, mais c'est une machine sans émotion, assez parfaite, comme une intelligence artificielle, presque vivante. Elle a néanmoins son rôle dans l'histoire et sa présence n'est pas gratuite, contrairement aux plans vus du ciel qui se multiplient dans les films pour leur côté spectaculaire mais qui, il faut bien le dire, ne signifie rien par rapport au récit. C'est même parfois un peu gadget. C'est complètement différent dans le film de Simon Buisson. Il est une part de l'angoisse et fait basculer le film dans un thriller. Drone de Simon Buisson sur les écrans le 2 octobre.
Autant laisser les cons entre eux et s'efforcer de les fuir, oui, autant qu'on fasse autrement sans forcément dire faut qu'on se reconcentre aux mille renforts. Par conséquent, les cons sont relativement forts quand des quantités trondées entreprennent de te forcer à renoncer à contester, être poussant sans formaliser. Du coup, des cons gueulent contre eux, ils perforent le corps de leur LP, les cours soient dans le ventre, frappe hyper fort. Moi, je démords pas en fin de compte, j'entreprends de grands efforts pour me réfugier dans plein de combes. J'entre dans de vertes forêts, je garde le peu qui m'incombe. Entre mes mains, je serre fort. Les vides et non humains comptent, donc j'entretiens bien les formes de solidarité con. Entre eux, tout se fort, clos en enclos ou bien contraint par l'entremise d'armes fortifiables confiées à des cons qui se montrent tels qu'ils sont formidables. Pourvu qu'ils consentent à s'entretuer, ce serait formidable pour m'élever contre eux et foutre le boxon. Je vais fort, j'y gagne de belles rencontres, celles qui te redonnent
poil est fort. Vitalty, j'allume les contre-feutres, dis haut et fort. Ce que les forêts se racontent dans le ventre des contreforts.
Alors là, j'ai choisi de vous parler d'un film qui est un film d'animation, qui est plus un film, disons, pour les enfants. Mais je pense que l'expérience est intéressante. C'est un film donc, de papa Michel Gondry, comme il l'a appelé. Et ça s'appelle donc, le titre c'est Maya, donne-moi un titre. Ça sort le 2 octobre. C'est un film d'animation en papier découpé, une suite d'histoires que le père de Maya invente au jour le jour et met en scène pour raconter à distance des histoires à partager avec sa fille, sa petite fille, durant toute son enfance. Parce que Maya et son papa ne vivent pas ensemble, mais dans deux pays différents. Alors, pour maintenir le lien entre la fille et le père et continuer à lui raconter des histoires, ben son papa lui demande chaque soir « Maya, donne-moi un titre pour la prochaine histoire. » Très joli film où Maya grandit en même temps que les histoires qui se diversifient. C'est un peu comme un exercice d'écriture automatique, mais en dessin et papier à découper. La lecture du texte est faite par Pierre Ninet, qui est en fait le neveu de Michel Gondry. Et c'est sur les écrans le 2 octobre. C'était Marché dans la cellule, c'est la bande originale du film Edward que je passe souvent ici parce que c'est vraiment une très belle bande originale. Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal de Joël Charby, Shaïn Morris et Gwenola Ricordo. C'est paru donc chez Lux. Joël Charby sera en direct tout à l'heure à la librairie Publico pour nous présenter cet essai et répondre à vos questions. Nous vous attendons donc à partir de 16h30 à la librairie Publico 145 rue Amelot, en présence donc de Joël Charby, qui est co-auteur de ce livre « Brique par brique, mur par mur ».« Brique par brique, mur par mur », une histoire de l'abolitionnisme pénal est un livre précieux et dense. Une histoire de l'abolitionnisme à partir de multiples témoignages et expériences différentes, croisées, synthétisées, examinant les luttes et les mouvements abolitionnistes, les critiques sur la police, la prison et le système pénal, les révoltes des prisonniers et les réformes pénitentiaires, ou encore le complexe carcéro-industriel états-unien. On y retrouve d'ailleurs Radio Libertaire avec l'émission « Ras les murs » de Jacques Lesage de La Haye. L'abolitionnisme est un courant de pensée universel et certainement lié à la politique anticapitaliste. Dans le champ politique, l'abolitionnisme fait face à plusieurs défis, à commencer par la puissance du populisme pénal et du punitivisme, comme l'illustre la prépondérance des courants carcéralistes au sein du féminisme. Par ailleurs, l'abolitionnisme est à contre-courant de la montée en puissance de la judiciarisation des luttes depuis les années 1970. Le droit est définitivement entré en prison, occasionnant des effets ambigus, car s'il permet, dans certains cas, de mieux défendre des personnes détenues, dans d'autres, il encourage la rationalisation de la surveillance et du contrôle. Il reste que cette centralité du droit est aujourd'hui peu remise en question comme outil des luttes émancipatrices. Et dans un moment où la droite, le capitalisme et les idées réactionnaires sont popularisées à l'extrême, pour la plupart des grands médias, des médias grand public, il serait intéressant d'envisager que l'abolitionnisme ne soit plus seulement cantonné à des recherches universitaires.
Est-ce que l'abolition de la peine de mort, donc c'est 1981, est-ce que ça a changé les choses? Est-ce qu'on oblitère les analyses de classe? Les analyses de classe, il n'y en a pas. Hein.
Mais d'un point de vue abolitionniste, la plupart du temps, une abolition d'une peine, en particulier comme celle de la peine de mort, est forcément bienvenue en soi. Pour autant, quand tu regardes l'histoire des mouvements abolitionnistes, des théoriciens et théoriciennes abolitionnistes en France, tu vois que c'est quand même aussi un gros échec. Parce que ça correspond aussi à l'arrivée de la gauche au pouvoir. Et donc à un moment aussi d'essoufflement où on a coupé l'herbe sous le pied de plein de mouvements radicaux, et là y compris par exemple dans le domaine pénal. Et donc ça a cassé toute une énergie, et en plus il y a eu un effet tout insidieux avec la peine de mort qui fait que ça a augmenté les peines, la longueur des peines. Vu qu'il n'y avait plus la peine de mort, bon déjà la peine de mort n'était pas utilisée à la fin, et puis depuis des décennies ça faisait longtemps qu'elle était dans une forme d'essoufflement, mais c'est ça le côté un peu pernicieux de cette abolition de la peine de mort, c'est que déjà, elle a coupé un débat, elle a coupé une dynamique politique, et qu'ensuite, elle a créé des sortes de pénalisations, pour le coup, avec la prison.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de m'expliquer que l'abolition de la peine de mort, qui symboliquement était très bien, ça, on ne remet pas ça en question, le problème, c'est qu'en fait, ça a arrêté un débat qu'il pouvait y avoir, ça a endormi les personnes qui pouvaient être justement mobilisées contre la prison, etc.
C'est quand même important, même symboliquement, d'avoir la peine de mort qui est abolie. Et d'une certaine manière, les abolitionnistes sont pour rogner au fur et à mesure toutes les mesures pour essayer de diminuer la surface d'action du système pénal. Mais et bon, là, on pourra en revenir aussi du coup aux stratégies et aux différents mouvements, comment ils en sont pris dans les différents pays. Mais la plupart du temps, une fois qu'une mesure pénale est abolie, justement, l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas un dispositif répressif qui revienne de la même manière, mais de manière encore plus moins détectable. Et ça a été tout l'enjeu de tous les mouvements abolitionnistes dans tous les pays depuis 50 ans. Donc de rester sur le qui-vive, de revoir ses stratégies, de revoir les cibles, pour faire en sorte que l'abolition n'aboutisse pas à une reconfiguration répressive dans d'autres domaines. Là, en l'occurrence, on abolit la peine de mort, mais en fait, tu arrives à un début d'une montée en puissance des peines longues dans les prisons, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ça, c'est pareil partout. Moi, en plus, après, il faut coupler ça aussi avec les années 80. Enfin, c'est pas juste lié à la peine de mort, mais c'est lié aussi pour reprendre les termes de Loïc Vacant, le sociologue français, à une baisse de l'état social, une montée de l'état pénal, et donc d'un recours à l'incarcération beaucoup plus massif pour traiter des problèmes sociaux. Et effectivement, comme tu dis, le fait que la peine de mort soit abolie, il y a aussi un côté humanitaire où on se dit, bon bah voilà, les aspects les plus exécrables de ce système ont disparu, on n'a plus besoin de s'en préoccuper.
Ça oblitère complètement une réflexion par rapport justement à cette histoire d'enfermement. Moi, c'est ça qui m'avait frappé. Tout est réglé maintenant, c'est la justice qui va s'occuper de tout ça. Ouais. Non. S'il y a, comme tu dis, une sorte de phénomène de recyclement des peines, à la limite, ça peut même embrouiller complètement ce que les luttes qui sont en cours contre l'enfermement et contre ce système de punition.
Oui, potentiellement, l'ennemi est moins clair. J'ai discuté il n'y a pas si longtemps avec Catherine Becker, qui est la préfacière de l'ouvrage, qui a écrit des textes abolitionnistes qui ont influencé quelques générations d'abolitionnistes. Et en 84, avec d'autres, elle écrit le manifeste abolitionniste, qu'elle a commencé déjà à écrire en 80, elle me disait. Précisément au moment où Mitterrand est élu, dans mes souvenirs, elle va devant la prison de la Santé, elle s'attendait à ce qu'il y ait une manifestation, quelque chose, il n'y avait rien. Elle était en lien avec tout un tas de personnes emprisonnées, et elle s'est dit, ça va créer une dynamique de mobilisation. C'était tout le contraire dans les années qui suivaient. Et c'est de sa frustration, et avec d'autres, ils ont aussi voulu précisément réinsuffler une énergie abolitionniste et dire, mais il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que l'abolition de la peine de mort, c'est bien, mais il faut continuer en fait le combat jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout, il n'y a pas vraiment de bout. En fait, il n'y a jamais de bout. C'est ça, d'ailleurs, l'enseignement de tous ces mouvements abolitionnistes, mais c'est comme tous les mouvements politiques, je pense, transformateurs, il n'y a jamais de bout. Il faut toujours élargir les cercles de ce qu'on veut abolir ou abattre et construire parallèlement les systèmes qu'on a envie de mettre en place. Donc il y a un lien direct, en fait, même une volonté d'insister vraiment sur cette abolition de la prison et du système pénal à un moment où on abolit la peine de mort. Et d'ailleurs, ça fait l'actualité avec un livre récent qui a été sorti par le collectif L'Envolée, qui est peut-être le collectif le plus important anticarcéral depuis 20 ans ici en France, pour l'anniversaire de la peine de mort, donc c'était en 2021, avec un livre qui s'appelait, dans mes souvenirs, « La peine de mort n'a jamais été abolie ». Parce que la prison tue, et c'est ce que les abolitionnistes s'évertuent à dire depuis des décennies, c'est que la prison tue et continue à tuer. Et donc la peine de mort, on peut l'appeler autrement, mais elle continue à tuer, en fait, d'une certaine manière. Et on les laisse mourir dans les geôles. Et d'ailleurs, il y a dans tous les pays, depuis des décennies, tous les ans, il y a des mobilisations de collectifs qui rappellent tous les morts de la prison. Tous les morts aussi tués par la police, tous les morts, en général, qui sont pris par les institutions pénales. Il ne faut pas l'oublier.
Par exemple, aux États-Unis, je pense à deux prisonniers qui sont célèbres et pour lesquels on s'est mobilisé et qu'on se mobilise toujours. Moumia Abou Jamal et Léonard Pelletier n'ont jamais été jugés ni rejugés alors qu'ils n'avaient pas les preuves. Les preuves ont été complètement bidonnées. On ne les soigne pas. Ils sont en cellule. Ils n'ont aucun rapport avec les personnes, que ce soit sensoriel. C'est une sorte de condamnation à mort, mais en étant enfermé.
En France, on peut penser aussi à Georges Ibrahim Abdallah, qui est le plus vieux de voilà. France.
Exactement.
Et encore la même question. Et ça, on passe sous silence à chaque fois. On le laisse croupir à ad vitam aeternam dans les prisons.
My name is Moumia Abou Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row for more than 15 years.
To break free is to begin to heal the broken inner self, to save the soul from dancing with Shaitan. But you see, the battle wages on.
The battle wages beyond.
As we sit unified,
and trying to identify,
minutes are ticking away, and seconds fly by.
And I can hear the piercing cry for freedom and thinking twice about sparing a dime.
Signing on a petition
line,
speaking out for what's right.
Raising your hand to question what's wrong.
And thinking twice could lose yet another life. Moumia Abou Jamal
sits framed beyond the solitary confines of his cell walls for crimes he never committed,
but instead for words he admitted, speaking out
for the silence,
teaching others
to find strength,
fighting back
against brutality,
standing up
against injustice.
Moumia Abou Jamal,
a people's hero, sits awaiting an unwarranted execution,
signed by injustices draped in death clocks. Minutes are ticking away and seconds fly by.
Let me bring it back home.
He is innocent. Kwang Chang Kao, an innocent civilian,
Asian man,
shot to death in shady Sonoma County circumstances by brutal badges in front of his own home.
They claimed he appeared to take a threatening martial arts stance.
Kwang Chang Kao,
father,
husband,
neighbor,
hero to his children.
Let me bring it back home.
He is innocent.
As we sit unified
and trying to identify,
minutes are ticking away and seconds fly by.
But you see,
the battle wages on.
The battle wages beyond. To break free,
it's to begin to heal the broken inner self.
To break free,
it's to save the soul from dancing with Shaitan.
But you see,
the battle wages on.
The battle wages beyond. To break free
is to learn about the self.
To learn to extend the self.
To extend the self beyond the systematic doctrines they feed you.
Beyond these city walls.
Beyond your circle of friends.
To extend the self to fight for freedom.
To fight a system that enlists soldiers to step on those deemed less than pure.
To release our rage.
Unleash our voices.
Refuse and resist.
Stand in solidarity.
Those who persist to deny us our right to cry for justice.
To fight for freedom.
To live for peace.
To live for peace.
As we sit unified
in trying to identify,
minutes are ticking away and seconds fly by.
From Death Row, this is Mumia Abu-Jamal.
Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Tu peux très bien dire, effectivement, en France, il n'y a plus de peine de mort, et tant mieux. Mais il y a d'autres formes qui sont tout aussi terribles et tout aussi insupportables. Vous parlez, tous les trois, de l'abolitionnisme syndical, institutionnel et révolutionnaire en Europe occidentale. Quelles sont exactement les définitions syndicales, institutionnelles et révolutionnaires ?
Donc, le livre, il a 5 chapitres. Le premier chapitre porte sur les idées abolitionnistes telles qu'elles sont développées depuis 50 ans, avec un regard surtout européen, mais où on considère aussi l'Amérique du Nord, même si les idées sont présentes bien sûr dans tout le livre, parce que enfin, les idées dans tous les mouvements, les idées sont portées. Donc. Mais là, c'est un peu un chapitre dédié aux idées, aux stratégies abolitionnistes depuis 50 ans. Le chapitre 2, c'est sur les mouvements abolitionnistes en France. Le chapitre 3, c'est sur les mouvements abolitionnistes en Europe, en dehors de la France, surtout Europe occidentale. Parce qu'après, il y avait le bloc de l'Est, mais c'était une autre histoire. Chapitre 4, c'est sur les mouvements abolitionnistes aux États-Unis. Et chapitre 5, c'est un mouvement un peu plus conclusif, où on essaye de voir comment on peut penser l'abolitionnisme, justement, et son évolution donc depuis 50 ans, et puis les nouveaux enjeux qui apparaissent aujourd'hui, voir les perspectives qu'il y a aussi pour cet abolitionnisme dans le futur. Et à la fin, il y a une part en question, avec 6 questions principales, des questions qui reviennent tout le temps, quand on parle d'abolitionnisme ou d'abolition de la prison en général. Et donc on essaye de donner une base rhétorique très courte pour que les gens puissent ne serait-ce qu'avoir un début de réponse à donner à des gens simplement sans avoir à renvoyer à des bibliographies grosses et puis des bibliothèques qui tombent sur la tête des gens. Le chapitre 3, qui porte du coup sur l'Europe, en dehors de la France, on a essayé pour simplifier la lecture de le découper en 3 types d'abolitionnisme. Mais il faut garder à l'esprit que c'est ce qu'on appelle souvent en sociologie des idéotypes, c'est-à-dire que c'est des modèles comme ça, qui sont purs, qui ont l'air purs, mais qui en réalité s'entremêlent en permanence. C'est juste pour donner un peu 3 stratégies, enfin 3 sortes de grosses stratégies qui ont été développées en Europe, en termes abolitionnistes. Le premier, c'est l'abolitionnisme syndical. Dedans, on met les pays nordiques. Quand je dis nordiques, c'est-à-dire les pays scandinaves, donc Norvège, Suède, Danemark, mais nordiques du coup aussi, par exemple, la Finlande, donc le Royaume-Uni. Le deuxième, institutionnel, où on met les Pays-Bas et l'Allemagne en particulier, parce que c'est un peu les modèles les plus purs de ce qui a pu se développer dans ce sens-là. Et le troisième, on met l'Italie, qui est un cas qui se rapproche quand même beaucoup de la France. Donc dans l'abolitionnisme syndical, on l'appelle comme ça simplement parce que c'est des pays, donc là en l'occurrence les pays nordiques et le Royaume-Uni, où les mobilisations de prisonniers étaient massives dans les années 60-70. Ça a été vraiment parfois jusqu'à l'essentiel de la population dans les prisons qui était en révolte, au même moment. Ce qui est quand même pas le cas de la plupart des pays. Et donc c'est des pays où je revienne juste sur la base de comment s'est développé l'abolitionnisme au début. L'abolitionnisme pénal naît dans un moment très particulier dans les années 60, fin des années 60. Bien sûr, dans ce qu'on a appelé les années 68, pour faire très large, ou dans plein de pays. Les années 68, ça peut démarrer dès le début des années 60 dans certains pays et aller jusqu'au début des années 80 dans d'autres. Donc il y a tout un mouvement contestataire. La réinvention de différents sujets politiques, la volonté de bouleverser les données dans tout un tas de domaines. Et en l'occurrence, dans les prisons, il y a une décennie longue qu'on a pu appeler crise carcérale, mais qui était de mouvements de prisonniers massifs et de mouvements autour des prisons aussi, qui ont contesté directement les logiques de la prison et du système pénal. Ce qui est assez marquant, c'est de voir que dans tous les pays, au même moment, c'est plus ou moins la même chose. Parfois, il y a des circulations, mais parfois, il n'y en a même pas, et il se passe la même chose. Et donc, dans tous les pays, ce qu'on retrouve, c'est de manière inédite, parce qu'en fait, il y a toujours eu des révoltes de prisonniers depuis le 19e siècle. Et même après la guerre, on peut penser à des pays comme l'Italie, où il y a eu des très grosses révoltes de prisonniers, ou même en France, quand c'était les détenus algériens notamment, il y a eu des grosses révoltes. Mais ça n'a jamais duré très longtemps. Et là, le fait que ça dure une décennie, alors bien sûr, c'est discontinu dans plein de pays, mais c'est massif et répété, et d'une ampleur jamais vue, c'est précisément parce que les prisonniers, là, trouvent à l'extérieur des relais intellectuels, médiatiques, des étudiants, des professionnels, y compris des professionnels du secteur juridique ou même pénitentiaire, qui vont les aider, qui vont les relayer, qui vont relayer leurs paroles, parfois qui vont les aider à politiser leur cause. Et donc voilà, c'est une décennie où on a la prison et le système pénal qui deviennent des authentiques sujets politiques et médiatiques, alors qu'avant c'était pas le cas. Et on s'intéresse à eux. D'ailleurs, on verra qu'après ces années-là, à partir des années 80, il y a une prison qui retourne dans l'oubli, dans le silence. Alors que précisément, tous ces individus-là, que ce soit les prisonniers ou les gens qui voulaient les aider à l'extérieur, avaient cherché à faire sortir les informations et à mettre fin au silence qui régnait dans les prisons, faire savoir ce qui se passait à l'intérieur. Sur l'abolitionnisme syndical, par exemple, c'est simplement que c'était dans des pays où il y avait des mobilisations très massives de prisonniers, donc ils pouvaient mettre une grosse pression sur les administrations pénitentiaires, et souvent, à l'intérieur des prisons, il y a eu des syndicats qui se sont formés. Et il y avait aussi des organisations extérieures mixtes, souvent avec des prisonniers et anciens prisonniers et différents types de professionnels, étudiants, intellectuels, qui avaient un capital symbolique qui pouvait donner un peu du poids aussi à ces revendications. Ces organisations qu'on cite dans les pays nordiques et Royaume-Uni, ils n'avaient pas qu'une logique syndicale, mais c'était certainement le truc le plus marquant pour ces mouvements-là, avec la grève comme principal moyen d'action dans les prisons. C'est pour ça qu'on l'a appelé l'abolitionnisme syndical. Ensuite, le deuxième donc idéotype qu'on développait, c'était avec les Pays-Bas et l'Allemagne. Et là, c'est des pays, pour le coup, qui n'ont pas eu des grosses révoltes de prisonniers. Il y a eu quand même quelques révoltes ici et là, hein, mais où les mouvements, par contre, à l'extérieur des prisons, qui pouvaient contenir des anciens prisonniers et tout un tas d'intellectuels, la même chose que dans les autres pays. Mais là, ils ont eu des élaborations théoriques et des concrétisations jusqu'aux institutions assez importantes dans ces pays-là, malgré la faible mobilisation des prisonniers. On parle des Pays-Bas, on parle de l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que les Pays-Bas, c'est aussi un des pays où il y a deux des théoriciens principaux de l'abolitionnisme pénal qui sont actifs, Herman Bianchi et Lokulsmann, qui sont des universitaires, juristes, criminologues, donc en droit pénal. C'est un professeur de droit pénal qui dit qu'il faut abolir le système pénal. Lokulsmann est né en 23, Herman Bianchi aussi, ça c'est très marquant d'ailleurs. Dans ces pays-là, ils sont jeunes pendant la guerre. Au début de la guerre, c'est des adolescents. Les Pays-Bas sont occupés par l'Allemagne nazie. Et à la fin de la guerre, ils ont 20 ans. L'âge se fait incarcérer dans les camps de concentration. Aux Pays-Bas, ça a été massif, on ne se rend pas compte. Je pense qu'en France, ça, je ne sais pas, je ne crois pas que ça a été la même chose, mais il y a toute une partie de l'élite du pays qui, en temps normal, n'aurait jamais connu la violence de l'État, et encore moins celle de la prison, qui se retrouve incarcérée dans les prisons et dans les camps de concentration. Et c'est le cas de Lokulsmann et Herman Bianchi. Donc, après-guerre, aux Pays-Bas, par exemple, pendant 2-3 décennies, tu as ce qu'ils ont appelé là-bas une politique de la mauvaise conscience autour de la prison. C'est-à-dire que, y compris les juges, les avocats, tous les juristes, considérer que c'était vraiment pas une solution, quoi, la prison. Il y a eu un peu des choses similaires en France quand on a voulu réformer les prisons après la guerre, comme beaucoup de résistants avaient été incarcérés, mais là c'est vraiment marquant. Et donc l'abolitionnisme, il s'ancre là-dedans. Donc avec ces élites-là, qui vont être marquées dans leur chair par ce qu'est l'emprisonnement, et donc vont pouvoir beaucoup plus s'identifier à ce qu'est un prisonnier après. Dans ces pays-là, Pays-Bas, Allemagne, il va y avoir des réformes qui vont être obtenues par les abolitionnistes, et notamment le groupe principal aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle la Cornert Liga, c'est la Ligue Cornert. C'est un peu le Beccaria néerlandais, quoi. Un des premiers à avoir une sorte d'humanitarisme pénal à l'époque classique.
Dans une putain de cellule au premier étage. Gueule et quelques poussins crient. Y'a du bas pour la tôle. Y'a du bas devant la tôle. Y'a du bas devant la tôle. Café des mecs, ça va saigner. Pops ont commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà que mes potes mettent à saccager les pions. Avec des mitraillettes, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. tête, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle, y'a du baston dans la tôle, y'a du baston dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Charlie, Shane Morris et Gwenola Ricordo, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal, avec une préface de Catherine Baker aux éditions Luxe. La base sociale de ce mouvement-là, là-bas, qui n'est pas uniquement abolitionniste, hein, cette ligue, elle est très critique vis-à-vis du système pénal et de la prison, mais tu as quand même une partie qui n'est pas forcément abolitionniste, radicale, mais tu as toute une partie qui l'est. Et dans ce pays-là, contrairement à d'autres, ils ont une base sociale et politique importante parce que, comme je le disais, c'est l'élite du pays. Donc ils ont des relais énormes. Par exemple, un des gars qui sera premier ministre aux Pays-Bas dans les années 70, il sera dans la Kornhardtliga. Et c'est un des meilleurs amis de Lou Koolsman. Donc en fait, ils ont les accès. Ils ont les accès au Parlement, ils ont les accès au ministère, ils arrivent à décrocher tout un tas de réformes. Lou Koolsman, c'est aussi un des pères fondateurs de la politique des drogues aux Pays-Bas à la fin des années 60. Il fait un des deux rapports principaux qui permettra d'avoir la dépénalisation du cannabis. Dans les années 70 et jusqu'aux années 85, par exemple, à la tête de l'administration pénitentiaire, on a un sociologue progressiste qui s'appelle Hans Sulkens, qui lui est bien conscient des effets néfastes d'emprisonnement. En 75, t'as quelqu'un qui siège, hein, par exemple, un comité très important qui parle carrément d'abolir la prison. Parce que pour lui, c'est devenu une peine obsolète. C'est simplement pour dire que dans ces années-là, et en particulier dans ces pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas, c'est pas du tout totalement absurde de dire qu'il faut abolir la prison. Parce qu'on est dans des décennies aussi où dans la plupart de ces pays occidentaux, on a des politiques de décriminalisation. On est dans un contexte économique favorable, donc il n'y a pas de chômage de masse encore. Donc beaucoup de gens se disent en fait, finalement, demain, la prison ne sera pas forcément nécessaire. Ça, c'est pour les plus optimistes. Pour les moins optimistes, par exemple en France comme Michel Foucault, ils vont dire de toute manière, elle ne sera pas nécessaire parce qu'on aura d'autres instances disciplinaires pour remplir les mêmes fonctions. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme quand on abolit la peine de mort. C'est pas forcément bon de montrer cette face du pouvoir. Certainement qu'on pourrait faire la même chose sans avoir la peine de mort, c'est-à-dire par exemple la prison à vie. En tout cas, il y a tout un tas de personnes qui pensent que la prison sera bientôt abolie et qu'elle sera de toute manière obsolète. Elle l'est déjà en fait. C'est pour ça qu'on l'a appelée institutionnelle, c'est que dans ces pays-là, aux Pays-Bas et en Allemagne en particulier, il y a eu des traductions institutionnelles assez fortes en termes de réformes notamment et en termes d'inscription de ces acteurs abolitionnistes dans les institutions, dans l'université ou dans les institutions politiques qui est forte. Et troisième type d'abolitionnisme, enfin c'est une troisième voie, là c'est l'Italie. Comme je le disais, ça se rapproche pas mal du modèle de la France parce que là c'est des groupes, pour le coup révolutionnaires, qui vont, dans le cadre de leur lutte révolutionnaire, vouloir aussi abolir la prison. Vraiment en faire une lutte autonome en soi, mais dans le cadre plus général de ce projet révolutionnaire. Ça se rapproche de ce qui se passe en France, parce qu'en France, d'ailleurs, il y a même des liens directement interpersonnels et entre les groupes. En France, ceux qui ont vraiment commencé à politiser à fond la prison, c'est notamment les maoïstes, la gauche prolétarienne, par exemple avec Daniel Defer, qui était le compagnon de Foucault. Foucault s'est intéressé notamment parce qu'il était avec Daniel Defer et qu'il voulait avoir le capital symbolique de Foucault. Mais du coup, ces gens-là, ils vont directement voyager aussi en Italie, pour aller voir ce qui se fait de ce côté-là. En France comme en Italie, on a des énormes révoltes de prisonniers dans les années 70. Vraiment très très massives, avec parfois des parties ou carrément une prison entière détruite. Et donc dans ces deux pays-là, on a des groupes extra-parlementaires qui vont les relayer. Alors que dans les deux autres pays, tu vois, c'est pas forcément la logique des gens qui vont les soutenir, c'est souvent des professionnels, des gens bien intégrés dans le système, qui peuvent avoir des idées politiques plus ou moins radicales, mais c'est pas un groupe politique radical en soi qui va les aider. Alors qu'en Italie, par exemple, un groupe comme Lotta Continua, les prisons en Italie, c'est vraiment une histoire qui se fait de
jusqu'à la fin des années 80, parce qu'après, ça finit avec les Brigades Rouges. Et donc, ça devient vraiment l'épicentre de la lutte révolutionnaire à partir d'un certain moment, à partir des années 70 notamment, la prison en Italie devient l'épicentre de la lutte révolutionnaire. La lutte avec les prisonniers n'est qu'une partie de la lutte révolutionnaire plus générale. Le but pour l'OTA Continua et d'autres, c'est d'allumer des feux un peu dans tous les secteurs pour faire advenir la révolution.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Est-ce que ça correspond aussi à toutes ces luttes, que ce soit en Allemagne, en France ou en Italie, à justement des formations politiques extrêmement révolutionnaires et extrêmement radicales, et également par la suite à des prisonniers politiques et des prisonnières politiques, où là ça a quand même fait quand même bouger pas mal de monde, que ce soit des brigades rouges, actions directes.
Ça dépend des pays justement, parce que la politisation de la prison ne se fait pas de la même manière dans tous les pays. Les pays du nord de l'Europe, en particulier les pays scandinaves, c'est vraiment lié à une révision de ce qu'on appelle la déviance, donc tous les déviants, y compris ceux qu'on appelait les fous, les handicapés. Il y a une lutte des déviants, des luttes autonomes qui se développent dans les années 60.
C'est-à-dire, ça revient un petit peu à ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la déviance?
Donc c'est toute une approche politique du handicap, de la prison, de la folie qui se développe à ce moment-là. Et c'est ça qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui se mobilise là-dessus, y compris les étudiants, les gens des classes moyennes, moyennes sup, qui vont essayer de se lier à ces personnes marginalisées, ces groupes marginalisés, et de favoriser leur parole autonome et leur action autonome. Mais ça se fait pas nécessairement parce que eux-mêmes seront, par exemple, incarcérés en tant que prisonniers politiques. Tandis que en France et en Italie, il y a un lien direct avec l'incarcération des étudiants ou des ouvriers mobilisés en 68, enfin à la fin des années 60, et qui vont découvrir la prison. Et donc découvrir tout un monde qui, peut-être, ils n'auraient jamais eu l'occasion de rencontrer réellement dans la vie. Donc ça les sensibiliser. Et c'est ça que je disais tout à l'heure sur la gauche prolétarienne, c'est le point de départ des maoïstes de la gauche prolétarienne qui veulent s'intéresser à la prison, c'est parce que précisément ils sont victimes de la répression et qu'il y en a qui se retrouvent en prison. Et donc ils disent au début, on va développer des enquêtes pour faire savoir ce qui se passe un peu à l'intérieur pour les prisonniers politiques, et après en étendant à tous les prisonniers, avec le mot d'ordre qui revient à la fois en France, en Italie et dans plein d'autres pays, pour dire tout prisonnier est politique. Et c'est ça la rupture, parce qu'en fait depuis le 19e, il y a aussi une politisation de la prison autour de la question de la répression politique. Mais là, c'est un moment, dans les années 70, où on dit tout prisonnier est politique, donc on va considérer aussi les droits communs. Alors que pendant des décennies, notamment dans la doxa marxiste classique, on avait tendance à considérer que cette catégorie de criminels, entre guillemets, ne pouvait pas accéder à une conscience de classe, et qu'elle était souvent la catégorie des classes populaires sur lesquelles s'appuyaient, donc le lumpen prolétariat, les classes dominantes, dans un sens réactionnaire. Et donc on pouvait les acheter, c'était un peu des mercenaires pour les bourgeois, pour les retourner contre le peuple. Alors que là, dans les années 70, mais parce qu'il y a aussi un peu cet esprit libertaire à mon avis, parce que dans la tradition libertaire, ça n'a jamais été stigmatisé de la sorte, le criminel a été plutôt bien vu, contrairement aux marxistes, et ben là, on se dit justement, on peut faire la révolution à partir de toutes ces catégories, y compris celles qu'on appelait avant le mouvement prolétariat. Et donc, voilà, en Italie, en France, t'as cette logique où il y a des liens directs, une politisation qui se fait, notamment parce qu'il y a une répression donc des mouvements de 68. En Suisse, ceux qui vont politiser la prison, c'est pas parce qu'il y a une forte répression des mouvements de 68, parce qu'elle est assez marginale. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'objecteurs de conscience qui se retrouvent incarcérés. Et donc là, tu regardes l'histoire des mouvements des prisons en Suisse, et c'est surtout par ce biais-là que ça s'est fait. Donc encore une fois, des gens des classes moyennes qui se retrouvent incarcérés et qui découvrent la prison, et donc qui, soit ils se retrouvent pris dans un engrenage où en fait ils rentrent dans une forme de marginalité, de lutte dans la prison, et puis à l'extérieur, des formes de criminalité. Dans les années 80, il y en a qui veulent imiter un peu ce qui se faisait en Allemagne, en Italie, mais d'autres, simplement, ils découvrent la prison et ils veulent faire savoir ce qui se passe.
Il y a même eu un moment où on refusait l'appellation de prisonnier politique.
Dans certains pays, on refusait l'appellation de prisonnier politique, mais ça, c'était le pouvoir qui ne voulait pas dire qu'il réprimait pour des raisons politiques, parce
exact.
Que dans une démocratie, ce n'est pas possible. Ça
ah
n'existe
ben, bien
pas.
Entendu.
Alors que là, c'est vraiment les militants qui disent non, c'est-à-dire que nous, d'ailleurs, au début, les gens de la gauche prolétarienne disent nous, on pourrait revendiquer, et d'ailleurs, au début, ils voulaient revendiquer le statut de prisonnier politique simplement pour pouvoir plus s'organiser, pour militer, etc. Et très vite, en fait, ils disent non, on n'a pas à se séparer des autres, et au contraire, ils veulent. Du coup, politiser toute la prison. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui apportent la révolte en prison, parce que ce n'est pas le cas. Il y a déjà des mobilisations autonomes et très massives de prisonniers à ce moment-là, pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais c'est une étincelle supplémentaire pour les révoltes en prison, en fait. Parce que du coup, il va y avoir une politisation croisée, à la fois des prisonniers qui vont découvrir les militants politiques et puis tout leur savoir-faire organisationnel, etc. Et les autres qui vont découvrir la prison et tout ce monde, et qui vont aussi être sensibilisés à cette question-là, et souvent pour des décennies, voire pour la vie.
Thank you. d'un système correctionnel qui tue correctement. N'être plus que l'ombre de soi-même dépouillée de son humanité. Seul air dans ce froid couloir, l'écho d'une âme désespérée de nourrir le sang des démocraties pour l'arbitraire d'une justice. Procès bâclé, preuves dissimulées, droits bafoués, liberté volée, à terre, à tort, plus d'espoir dans cette prison. Et face à l'inanité d'une peine qui ne vaut bien que la haine, qui rendra ces années arrachées à tous les condamnés à tort. Une vie brisée, mort assurée, l'absurdité d'une justice exigeant pour tout sacrifice un innocent à condamner, le sang d'un être à immoler. Serait-ce donc le prix à payer pour obtenir réparation avec dommages et intérêts? La mort de l'autre restera-t-elle toujours l'unique solution? Non! Car nul besoin de le savoir, notre homme est noir, il faut le croire. Cela se passe aux têtes sous les statistiques sans cesse révèlent un dysfonctionnement du système judiciaire. Un doigt dans l'engrenage, c'est un pied dans la tombe. C'est une âme qui succombe au soubresaut d'une mentalité indigne, héritière des temps passés de l'esclavage.
Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée. Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée. Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée. Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée.
Nous ne sommes plus à l'aube de l'an 2000. Avec mon microphone, je vise dans le mille.
Écoute ça,
le nouveau millénaire, ma millénaire. Condamnation d'un journaliste black, ancien membre des Black Panthers, à cause du meurtre d'un agent de police. Quand je vois ce qui se passe là-bas, dans ce pays champion de la peine de mort, mon gars.
1976,
réinstauration de cette peine. De nos jours, ce n'est pas acceptable. Est-ce bien concevable? Qui a dit que l'on pouvait condamner des écrivains et journalistes? La liste est grande, des hommes dans un long couloir
qui n'attend
que la mort. Mais encore, faut-il les laisser faire?
Non!
En matière grise
possible,
il faut qu'on s'arme
aussi.
Et puis qu'on s'arme
aussi
contre les têtes.
Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée. Procès bâclé, voilà dissimulé, droit bafoué, liberté volée. Procès bâclé, voilà.
Joël Charby, Shane Morris et Gwenola Ricordo, brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal aux éditions Luxe.
C'est à partir des années 60-70, c'est que t'as des figures de prisonniers qui émergent dans l'espace public, mais comme sujet politique autonome, représentant souvent un collectif ou les prisonniers en général, mais qui vont parler pour eux-mêmes. Par exemple, en France, il y a Serge Livrauset, Jacques le Sage de La Haye, on a fait un encadré sur lui. La gauche prolétarienne lance un peu Foucault sur cette question des prisons, et donc il y a le groupe d'information sur les prisons qui se lance en 71. De 71 à 72, ils font leurs actions, ils mobilisent sur la question, ça rentre dans l'espace médiatique, mais après ils laissent la main au comité d'action des prisonniers. Parce que c'était le but depuis le début, et comme dans plein de pays, ils veulent donner la parole aux prisonniers, de manière autonome. Et donc dedans, t'avais des gens qui étaient dans le groupe d'information sur les prisons, comme Serge Livrauset, qui après a écrit un livre, lui, en 73, qui s'appelle « De la prison à la révolte », qui a quand même pas mal marché à l'époque, était préfacé par Foucault. Encore une fois, Foucault, il met son capital symbolique pour les prisonniers. Plus tard, dans les années 80, quand il y aura une deuxième vague de lutte dans les prisons, liée à la répression, ou ce qu'on appelait les QHS, quartiers de haute sécurité, il mettra encore une fois son capital symbolique. Pour faire la préface, par exemple, d'autres prisonniers dans la lutte des QEHS, par exemple, Nobel Peace. C'est pareil, il fait la préface, donc à chaque fois, il a essayé de pousser. Parce que forcément, quand tu as une préface de Foucault, ton livre, on va le considérer un peu différemment. Et donc là, ce qui est intéressant dans ces années-là, c'est que tu retrouves des Serge Livrauset dans plein de pays. Quand je dis Serge Livrauset, c'est-à-dire des figures qui commencent à sortir des livres, qui deviennent même des écrivains, en fait. On a des nouveaux témoignages de la prison qui ne sont pas sous un angle sensationnel ou qui sont écrits par des sociologues, qui sont vraiment des prisonniers eux-mêmes qui écrivent et sur un ton assez radical. Tout est dit dans le titre de Serge Livrauset, c'est de la prison à la révolte. Comment lui, en tant que, comme il se qualifiait de délinquant comme ça, ordinaire des classes populaires, il en est arrivé à vouloir faire la révolution. Et donc ça, on en trouve dans plein de pays des écrivains comme ça, prisonniers, qui prennent la plume, qui portent la parole des prisonniers dans l'espace public. Enfin, ça, c'est une rupture assez radicale. On a forcément, du coup, une autre vision de la prison à partir du moment où on a le point de vue de ceux, entre guillemets, qui sont d'en bas. Et ça, c'était tout le but des années 68, c'est de donner cette perspective des gens qui ont toujours été dominés, des opprimés. Mettre en avant leur perspective, et plus celle, le discours que la prison a toujours voulu d'elle-même, des élites pénitentiaires, avec leurs réformes et avec leur bien-pensance, comme on dirait. Là, c'est vraiment la vision de ce que c'est d'être incarcéré, de faire partie de ces classes de population qui passent par les prisons, mais qui sont aussi opprimées dans tout un tas d'autres domaines.
J'aimerais bien que tu me dises un mot sur Jacques Lesage de La Haye, parce que quand même, il y avait son émission qui a commencé en 89, et son émission, donc Ras les murs, était une émission qui était extrêmement suivie, où ouais. Il y avait justement des rapports avec les prisonniers, puisqu'il y en avait qui passaient en direct, etc. C'était une émission vraiment très intéressante, qui donnait la parole aux gens qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'entendre. Et d'ailleurs, l'émission a été attaquée, je crois, une fois assez fortement par le gouvernement. Radio Libertaire, c'est-à-dire la Fédération Anarchiste, a été condamnée.
Dans le livre, on a différents encarts.
C'est un peu pour donner des repères à l'intérieur du bouquin, c'est ça ?
C'est des repères, mais c'est aussi parfois des choses qui ne s'intégraient pas forcément dans le récit global pour raconter tout un pays et ses luttes depuis 50 ans, mais qu'on voulait mettre en avant. Et là, en l'occurrence, par exemple, dans le chapitre 2, on voulait mettre en avant, par exemple, les revendications des prisonniers en 72, par exemple les 12 points du comité d'action des prisonniers.
En plus de ça, c'est d'une clarté absolument incroyable.
C'est ça partout. Enfin, et c'est pour ça que ce serait intéressant de parfois de remettre au goût du jour ces textes-là, parce qu'en fait, ils sont tout aussi pertinents. Et peut-être qu'on manque un peu en plus de ces envolées lyriques aujourd'hui sur ces questions-là. Là, il y avait un encart aussi qu'on a voulu faire sur Jacques Lesage de La Haye. Alors souvent, Serge Livreset est peut-être plus connu dans certains milieux. Mais d'ailleurs, les deux qui étaient au comité d'action des prisonniers et avant au GIP, donc au groupe d'information sur les prisons, ont eu des émissions sur Radio Libertaire. Dans les années 80 notamment, Radio Libertaire a été une radio hyper importante pour cette perspective anticarcérale, pour la propager, et jusqu'à aujourd'hui en réalité. On a un encart sur Jacques Lesage de La Haye, simplement parce que ce qui est intéressant chez lui, c'est aussi qu'il a traversé différents types d'organisations et dans les différentes décennies. Tandis que Serge Livreset, c'est un peu plus, à partir des années 80, a été un peu moins actif, assez désillusionné sur tout un tas de points au niveau des luttes. Alors que Jacques Lesage de La Haye, donc, il est d'abord proche du groupe d'information sur les prisons. Donc d'abord, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est né en 38, qui a été incarcéré pendant un peu plus de 11 ans à la prison de Caen pour divers actes. Et donc, en détention, il fait des études, il passe le bac, et après des études en psychologie. Et donc après, il est un proche du groupe d'information sur les prisons en 71-72, puis après membre du comité d'action des prisonniers, qui est la continuité, mais tenue par les prisonniers, de ce groupe-là, en 73. Il cofonde ce groupe-là avec le comité d'action des prisonniers, avec Serge Livreset et Gérald Dittmar. Et en 74, il fonde aussi avec Livreset et avec d'autres un mouvement qui s'appelait Marge. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que je te disais sur la volonté de politiser toutes ces questions des groupes marginalisés, que ce soit les prisonniers, les personnes handicapées, ceux qu'on appelle les fous, ceux qu'on appelle les prostituées ou que sais-je. Et donc c'est tout un agglomérat vraiment, parce qu'en fait, il y avait des liens forts. Et si on peut citer ce que disait Jacques Lesage de La Haye dans un de ses livres sur l'antipsychiatrie en 2006, « Mort de l'asile », il présentait ce groupe comme un rassemblement de délinquants, psychiatrisés, toxicomanes, prostituées, féministes, post-féministes, homosexuels, proches du Front homosexuel d'action révolutionnaire, puis du groupe de libération des homosexuels et de beaucoup d'autres marginaux. On y a vu aussi des intellectuels, psychiatres, psychanalystes, psychologues, sociologues, journalistes, philosophes, écrivains. En bref, il dit, c'est une auberge espagnole et un melting pot invraisemblable. C'est ce groupe Marge qui est à la fois à l'image de beaucoup d'autres groupes, que ce soit autour des prisons ou de toute cette circulation qu'il y a entre les différentes luttes de groupes marginalisés dans ces décennies-là, 70-80 notamment. On a voulu mettre en avant Jacques Lesage de La Haye parce qu'il est passé par tous ces groupes d'information sur les prisons, comité d'action des prisonniers, Marge, et dans les années 80, il joue un rôle dans une association, une sorte de syndicat des détenus qu'on appelait l'association syndicale des prisonniers de France. Et ensuite, avec tout son rôle aussi dans la radio, dans le fait d'avoir propagé ces thématiques anticarcérales pendant des années via ses émissions sur Radio Libertaire, ou plus récemment encore, en 2019, il sortait son livre « L'abolition de la prison », qui a été traduit en anglais d'ailleurs aux États-Unis assez récemment.
Il a eu un rôle extrêmement important. C'était une émission hebdomadaire de 2 heures. Et donc, c'était où les gens pouvaient, les prisonniers pouvaient, les prisonnières pouvaient s'exprimer en direct. Et c'était vraiment une émission extrêmement importante et extrêmement suivie.
Bah, le problème, bien sûr qu'on peut fermer les prisons, mais la pauvreté est criminalisée. Donc, les pauvres, on va les mettre où? On va leur donner à chacun 10 000 francs par mois? La bourgeoisie veut pas ça. Maintenant, ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que la prison a une utilité sociale. Voilà, parce que c'est un pilier de la société. Donc, pas les gens, parce que les gens viennent en prison, les pauvres viennent en prison. Les gens le savent maintenant, hein. Ils sont pas dupes. Ce qui les fait ne pas agir, c'est parce qu'ils veulent pas être mis dans la charrette. Ouais, mais les gens savent que la prison est une, et quelque chose d'inscrit dans l'ordre social.
Donc dans le chapitre 2 sur la France, on a par exemple aussi un encart sur les 12 points de revendication du comité d'action des prisonniers en 72, quand il est créé, décembre 72. On cite d'abord les 12 points qui aujourd'hui parlent assez à peu de personnes parce que c'est sur les conditions de détention en particulier, les différents droits qu'ils aimeraient bien avoir. Par exemple, la suppression du casier judiciaire, l'interdiction de séjour, suppression de la peine de mort, parce que c'était avant 80, tutelle pénale, la question du travail aussi en prison qui revient dans tous les mouvements de ces années-là et encore jusqu'à aujourd'hui qui est toujours pas réglée. Les questions de parloir, de correspondance, etc., etc. Donc ça, c'est dans le premier numéro du journal du comité d'action des prisonniers, le CAP. En septembre 73, quelques mois plus tard, ils insèrent une 12e revendication à la plateforme qui était censée être évidente et implicite, disent-ils, mais qui est la conclusion majeure de leur manifeste. 12e point du CAP, suppression de la prison. Et ils ajoutent, pour le justifier, « Nous sommes contre la réforme qui ne vise qu'à la réforme dans la seule intention de perpétuer le système répressif en paraissant le rendre plus supportable. » Une prison ne s'aménage pas. Elle se détruit ou bien elle vous détruit. Il s'agit de savoir ce que l'on préfère. La force de tous les pouvoirs à ce jour, c'est d'avoir réussi à faire croire à tous et jusqu'aux détenus eux-mêmes que la prison est indispensable, alors qu'elle ne constitue que l'un des moyens de protéger un ordre imposé. La majorité des gens nous dira alors, mais que faire dans ces conditions des voleurs et des criminels? Ce à quoi nous répondons qu'une société n'a de voleurs et de criminels que dans la mesure où elle est voleuse et criminelle elle-même. Le travailleur est volé de sa production, et la seule solution qu'il ait trouvée à ce jour, c'est de se battre en volant à son tour. En ce qui concerne les prétendus criminels, ils sont assez peu nombreux pour se dire qu'ils le seraient encore moins si nous vivions dans une société moins violente et un peu plus humaine et fraternelle. Il faudrait de toute façon se lever de bonne heure pour arriver à la cheville des tueurs patentés reconnus et agréés tels que les industriels, les marchands d'alcool, de voitures, de canons, de nourriture, etc. Amis, copains, camarades, il est temps de s'unir, de refuser la culpabilité à sens unique dont nous chargent les pontes légalistes de cette société. Unissons-nous avec tous les exploités, tous les emprisonnés, ouvriers, immigrés, orphelins, handicapés, internés, etc. Ne cherchons plus à aménager nos conditions de vie, refusons-les. Refuser la culpabilité à sens unique. Vous nous accusez, mais qu'est-ce qu'on va faire des violeurs, des criminels? Mais ils disent, mais qui sont les criminels? Donc encore une fois, on va redéfinir, on va repolitiser, reproblématiser, comme dirait Foucault, la question de ce qui est criminel, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui cause le plus de dommages et de préjudices à la société? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle les criminels aujourd'hui, les petits délinquants? Ici, différents types d'industriels qui causent vraiment des torts avec des conséquences sociales dévastatrices, qui ne sont même pas qualifiés de criminels.
Là, il y a vraiment tout. Et puis, il y a aussi, maintenant que s'ajoute de plus en plus la question environnementale, ça double encore, disons, l'interprétation qu'il peut y avoir justement des criminels.
Ça, on y revient dans le chapitre 5, quand on essaie de voir les nouveaux enjeux avec lesquels l'abolitionnisme se confronte et se mêle, notamment sur les questions de genre, sur les questions de handicap, de psychophobie et des choses comme ça, et sur la question d'écologie aussi. Et ça, c'est vraiment que c'est un thème émergent depuis au moins la dernière décennie, en lien avec le développement de ce qu'on a appelé la criminologie verte, dans les pays notamment anglophones, puis les années 90, ou la géographie abolitionniste. Et reviennent vraiment beaucoup sur ces liens. Décentrer encore une fois le regard entre ce qu'on appelle le crime ici en général dans l'espace public et ce qu'on fait au niveau de l'environnement. Et de tous les liens même avec la construction de prisons et les conséquences environnementales que ça peut avoir sur les liens entre extraction des terres et oppression des populations, même on pourrait dire accaparement des corps.
On parle beaucoup de la prison, des peines, etc. L'abolition de la police, c'est le premier chaînon. On glisse vers les violences policières. Que ça soit en France ou que ça soit aux États-Unis, bon, je sais que là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées par rapport à Black Lives Matter. En France, on parle des violences policières. Ou à Radio Libertaire, on en a souvent parlé. J'ai reçu des groupes de personnes victimes et qui sont traitées non pas comme victimes, mais comme criminelles. Vous parlez dans le bouquin « Affaiblir, désarmer, démanteler ». Même le titre « Brique par brique, mur par mur », c'est-à-dire comment est-ce que justement vous détruisez.
Toutes les luttes abolitionnistes montrent que ça n'a aucun sens d'avoir un programme défini. Mais bon, je pense que c'est la même chose d'un point de vue révolutionnaire. Tu ne peux pas définir maintenant, dans un système tel qu'il est, un programme clé en main qui permettra de que tout se passe bien.
Comme tu dis, c'est une lutte qui continue et ça n'aura jamais de fin. Donc, en l'occurrence, par rapport justement aux violences policières, là, ça brûle.
Puis il y a l'analyse et après, du coup, qu'est-ce qu'on propose? C'est aussi un peu une interrogation qu'on a eue et on n'est pas les seuls. Mais c'est intéressant de voir que les réflexions abolitionnistes... Quand le mouvement s'est développé à partir des années 70, c'est d'abord focalisé sur la prison. Ensuite, au fur et à mesure du temps, ils ont élargi leur perspective. Notamment à partir des années 80, ça s'est développé de la prison au système pénal en général. Tout simplement parce que c'était aussi une époque où on parlait beaucoup des peines alternatives, comme on les appelle aujourd'hui, et qu'en fait, ils se rendaient compte que c'était bien de parler des peines alternatives, mais ça ne changeait pas d'abord les logiques de criminalisation, de qui se retrouvait dans les mailles du système pénal, donc toutes les logiques même, on pourrait dire, structurelles, économique et sociale de la criminalisation. Et en plus, plus tu mettais des mesures alternatives en place, plus en fait, enfin, la prison ne diminuait pas, mais par contre, tout un tas de choses qui avant n'étaient pas pénalisées parce que les juges se disaient, bon, la prison c'est peut-être un peu beaucoup pour ça, on leur mettait des peines alternatives. Donc en fait, il y avait ce qu'ils appellent en sociologie une extension du filet pénal. Vu que c'est la logique pénale en général qu'on refuse, il faudrait parler plutôt d'abolitionnisme pénal. Ensuite, au fur et à mesure des décennies, ça s'est encore élargi. Après, à partir des années 2010 notamment, enfin 2000-2010, il y a eu une extension des luttes qui s'est faite même au-delà du pénal, c'est-à-dire à tout un tas de formes punitives ou de contrôle social qui sont extra-pénales ou pas pénales. Par exemple, l'enfermement des personnes sans titre de séjour, donc les CRA, les centres de rétention administrative. La revendication d'abolition de la police, vraiment, de manière systématique, est venue seulement à partir des années 2010, et surtout la fin des années 2010, avec le summum qui a été en 2020. Après, il y a eu le mouvement George Floyd aux États-Unis après son meurtre par Derek Chauvin. Donc là, c'est là qu'il y a eu aussi une mainstreamisation, une popularisation inédite des mots d'ordre abolitionniste dans l'espace public, dans les médias. Il y a eu un accès fou des récupérations par des politiques locales, pas forcément toujours dans un sens vraiment, entre guillemets, purement abolitionniste, c'est-à-dire que parfois ils voyaient juste une occasion pour eux de réduire des budgets, parce qu'il faut bien voir comment la police est structurée aux États-Unis, c'est un délire pas possible. Il y a des polices à tous les niveaux, y compris dans les écoles, parfois dans les universités. On va supprimer cette telle police, mais vous inquiétez pas, il y a quand même une police au niveau de l'État, ou enfin il y a toujours des polices. C'est le point d'entrée dans le système pénal. Pourquoi cette question n'a pas été considérée davantage d'un point de vue abolitionniste par les abolitionnistes des années 70 et 80?
Voilà, sur cette musique évidemment qui illustre parfaitement le bouquin « Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal » de Joël Charby, que vous pourrez retrouver tout à l'heure à 16h30 à Publico, 145 rue Amelot, également dans Co-auteur, puisque là on vient d'entendre Chahine Maurice qui nous expliquait un petit peu tout le bouquin, et Guanola Ricordo, et donc le livre est publié chez Lux. Un livre extrêmement important, je l'ai déjà dit, absolument dense, et qui est plutôt, disons, on va dire plateforme, puisque maintenant on parle que de plateforme. Donc c'est une plateforme de début de discussion et de débat pour justement supprimer les prisons, mais supprimer tout, la police, etc., etc. Changer le système, quoi. Donc, la semaine prochaine, avant que nos camarades arrivent pour la prochaine émission, la semaine prochaine, samedi prochain, nous ferons un coup d'œil sur les rentrées littéraires. Il y a énormément de bouquins, donc on va parler quand même de pas mal de livres. Et puis il y a un film espagnol, oui, que j'aime beaucoup, qui a pour titre Un amour, un amour, de Isabelle Coixette. Voilà, ça sort le 9 octobre, il y aura peut-être d'autres aussi. En tout cas, très très bonne semaine. J'espère que vous viendrez à Publico tout à l'heure si vous êtes dans le coin. Et puis, très très bonne semaine à venir. Et puis surtout, comme d'habitude, tenez bon. Une petite chose, j'avais oublié, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, aujourd'hui et demain, il y a la fête du livre, c'est organisé par les éditions Noir et Rouge, et ça se passe 8 impasse Crozatier, dans le 12e arrondissement métro Federbe-Chaligny.